Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à ce nouveau cycle de cours qui débute aujourd'hui. Rien ne vaut une petite histoire pour commencer. Alors j'emprunte la mienne au récit que fait le diacre Pinution, compagnon de l'évêque Macaire de Tkouo, Tkouo c'est Antaïopolis en Égypte, dans le panégyrique de Saint Macaire de Tkouo, attribué au patriarche d'Alexandrie, Dioscore, qui l'aurait prononcé durant son exil à Gangra, ou Gangre, hein, qui est une ville de Paphlagonie, actuelle Turquie. Donc son exil se situe entre 451 et 454, la date de sa mort, alors qu'il venait justement d'apprendre la mort de Macaire. Alors je donne la parole à Pinution. Il y avait un village sur la rive ouest du fleuve dans lequel on adorait une idole appelée Kotos. Les choses étant ainsi, les prêtres du village vinrent dire à mon père, donc Macaire, puisque Pinution est son diacre, tout ce que les païens faisaient, comment ils s'emparaient des enfants des chrétiens et les égorgeaient pour leur idole Kotos. Alors Macaire, accompagné de ses acolytes, dont l'auteur, décide de se rendre au village et entre dans le temple de Kotos, mais les païens s'emparent évidemment d'eux, et je redonne la parole à Pinution. Ils s'apprêtaient à nous offrir sur l'autel de leur dieu et à nous égorger. Leur chef dit « Il convient que, avant que nous les tuions, nous en informions le grand prêtre et nous le fassions venir au sacrifice de notre dieu Kotos. » Les autres furent d'accord avec lui sur ce point. Or, le nom de leur grand prêtre était Homer. Et quand l'envoyé s'en fut allé, je dis à mon père, avec qui j'étais enchaîné, « Vas-tu continuer à supporter cela sans prier pour que nous en réchappions ? Car, vois, l'heure de notre mort est proche. » Mais il me répondit, « N'aie pas peur, Pinution, Dieu le Christ nous aidera. » Tandis qu'il était en train de parler, voilà que Bessa, alors Bessa c'est un moine du monastère blanc près de Panopolis, dont il fut le supérieur après le célèbre Chénouté, dont j'aurai l'occasion maintes fois de vous parler. Donc, voilà que Bessa frappa à la porte, mais ils ne lui ouvrirent pas. Et il cria, « Dieu le Christ, qui sortit Pierre de prison quand il était enchaîné, la porte de bronze s'étant ouverte pour lui, sans clé, puisse-t-il vous faire ouvrir la porte sans clé ?» Et sur le champ, la porte du temple s'ouvrit. Il entra avec 14 autres moines, et quand les païens les virent, ils se troublèrent et devinrent comme des pierres inanimées. Immédiatement, nos chaînes tombèrent. Père Bessa dit à mon père, « Fais une de ces deux choses, prie et je vais mettre le feu, ou bien mets le feu et je prierai. » Mon père dit, « Non, prions plutôt ensemble, et le feu tombera du ciel et consumera ce temple. » Et quand les deux se mirent à prier avec les frères qui étaient avec eux, une voix descendit du ciel et dit, « Sauvez-vous de ce temple !» Et quand nous étions un peu éloignés de la porte du temple et que nous n'avions pas encore regardé derrière nous, un grand mur de feu se leva dans le temple. Et une heure ne s'était pas encore écoulée que le feu avait dévoré les fondations du temple. Les murs du temple tombèrent et ses pierres s'écroulèrent. Mon père regarda derrière lui et maudit cette terre en disant « Puisse-t-il ne plus y avoir de semences à semer à tout jamais ?» Et quand mon père rencontra Homer, leur grand prêtre, sur la route, il sut qu'il était leur chef pour qui ils avaient envoyé quelqu'un. Mon père lui dit « Pourquoi n'es-tu pas venu à la célébration de notre sacrifice quand nous étions sur le point d'être égorgés par ton dieu Kotos ?» Il dit « Toi, vieil homme, tu n'es pas digne d'être offert en libation à notre dieu. » Aussitôt, mon père fit un signe aux frères. « Emparez-vous de lui. » Mais le prêtre impur cria, « Grand Dieu, Kotos, commandant en chef de l'air, frère d'Apollon, sauve-moi, je suis ton grand prêtre. » Mon père lui dit, « Je te brûlerai vif, ainsi que ton dieu Kotos. » Et quand nous entrions dans le village, la multitude des orthodoxes sortit à notre rencontre en chantant des psaumes. Puis il donna l'ordre et un feu fut allumé. Il jeta Homer dedans, il fut brûlé en même temps que les idoles qui avaient été trouvées dans sa maison. » Alors, on retrouve dans ce texte tous les clichés des récits hagiographiques concernant les destructions de temples païens qui se terminent par un feu et par une destruction. Destruction des idoles, autrement dit des statues, des divinités païennes. Mais ici, le récit se fait d'une violence, je dirais même d'une cruauté inaccoutumée, puisque loin de se contenter de la destruction miraculeuse du temple païen, qui suffisait finalement à démontrer aux païens l'inanité de leurs croyances et de les convertir au christianisme, eh bien, Macaire n'hésite pas à faire également un auto-da-fé du prêtre. Or, ce prêtre, vous l'avez peut-être remarqué, ne porte pas n'importe quel nom. Il s'appelle Homère. Nom qui, à l'époque du récit, nous sommes au mieux au 5e siècle, n'était plus attesté comme nom de personne. Les documents papyrologiques ne donnent pas d'exemple postérieur et troisième. Je vous ai fait ici une liste de tous les emplois d'Homère dans les documents grecs. Vous voyez que le dernier est un papyrus qui vient probablement d'Oxyrhynchos et qui est du 3e siècle. Voilà qui ne peut évidemment qu'éveiller notre suspicion sur la véracité historique de cette anecdote. Le récit, vous voyez, en fait, se fait une espèce d'apologue pour signifier de façon imagée et sous le masque de l'anthropomorphisme le sort que mérite la culture païenne, symbolisé par son chantre le plus illustre, par son représentant le plus fameux, le poète Homère. Donc le message subliminal que véhicule ce texte est que la lutte contre le paganisme passe par la destruction de la culture non chrétienne. Alors voilà une anecdote qui me semble poser, on ne peut plus clairement, encore que de façon, je dirais, un petit peu partiale et extrémiste, la question de la christianisation de la culture qui prévalait avant le triomphe de la nouvelle religion et que, pour l'instant, je dirais peut-être en me plaçant un peu dans. En épousant un peu les intentions de l'auteur de ce texte, j'appellerai ou je qualifierai de païenne avant de revenir sur cette notion. Pour l'auteur du panégyrique de Macaire de Tcou, on le voit, le développement du christianisme implique le rejet, voire l'anéantissement de cette culture jugée désormais obsolète et même corruptrice. Mais d'autres réponses, selon les milieux et selon les époques, ont été proposées à cette question. Ce sera le sujet de ce nouveau cycle de cours que j'inaugure aujourd'hui, où nous essaierons de mieux comprendre l'impact que le développement du christianisme a eu sur la culture écrite traditionnelle et les rapports que les deux ont entretenus entre les 4e siècle, les 4e et le 7e siècle, selon une dialectique, nous le verrons, souvent complexe et qui est loin, disons, de l'antagonisme un peu primaire qui ressort de mon anecdote préliminaire. Alors, le sujet de la christianisation n'est pas nouveau. Je dirais même que du fait de l'ampleur du phénomène qu'il recouvre, un phénomène qui est probablement un des plus, enfin qui a le plus profondément marqué le monde antique dans tous les domaines, il est de ceux qui ont le plus fait couler d'encre, suscité de nombreux débats, je dirais même des débats sans fin, et généré une bibliographie qui ne cesse de croître. Rien qu'en France, cette décennie a vu la publication de plusieurs ouvrages collectifs. Je vous en donne juste une petite poignée, comme celui d'Hervé Englebert, Sylvain de Stéphane et Bruno Dumézil, Le problème de la christianisation du monde antique, dans la collection Textes, images et monuments de l'Antiquité au Moyen-Âge, paru à Paris en 2010. L'ouvrage d'Arnaud Perrault, Les chrétiens et l'hellénisme, identité religieuse et culture grecque dans l'Antiquité tardive, paru à Paris en 2012. Et encore, il y a quelques mois, viennent de sortir, coup sur coup, deux ouvrages centraux sur le sujet. L'un, collectif, édité par Liliane Larsen et Samuel Rubenson, Monastic Education in Late Antiquity, The Transformation of Classical Paideia, paru à Cambridge l'année dernière, et l'ouvrage de David Frankfurter, cette fois-ci une monographie, Christianizing Egypt, Syncretism and Local Worlds in Late Antiquity, paru, là encore, il y a quelques mois, à Princeton. Il ne s'agit là que de quelques exemples récents dans une bibliographie qu'on pourrait qualifier d'exponentielle. La christianisation est un sujet fécond dont l'importance cardinale et les difficultés conceptuelles qu'il recèle expliquent que chaque génération de chercheurs se le soit approprié sans jamais avoir eu l'impression de l'épuiser. Alors on a développé pour cela des modèles aussi divers qu'a priori contradictoires pour appréhender le phénomène de la christianisation et du rapport entre culture chrétienne et culture païenne. Alors tout d'abord, le modèle de l'antagonisme ou de l'incompatibilité qui s'appuie sur un texte fondateur, celui de la première épître aux Corinthiens, où Paul rejette la culture traditionnelle pour mieux diffuser la parole de Dieu. Je vous cite ce texte très important. « Moi-même, quand je suis venu chez vous, frères, ce n'est pas avec le prestige de la parole ou de la sagesse, et je vous demande de prêter attention aux mots grecs qui sont utilisés, « kat hyperoken logou et sophias », que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu, car j'ai décidé de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Aussi ai-je été devant vous faible, craintif et tout tremblant. Ma parole et ma prédication n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse, le grec a « enpeitois anthropines sophias », de la sagesse humaine, mais elles étaient une démonstration faite par la puissance de l'Esprit afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors cette sagesse, dans le texte de Paul, Sophia, qui se pare des atours du prestige de la parole, le mot grec « hyperoké » est un mot très intéressant car il signifie à la fois prééminence mais aussi excès, est évidemment celle que véhiculent les livres païens et qu'enseigne l'école des païens, fondée sur l'étude des meilleurs auteurs et sur l'art de l'éloquence, ce qu'on appelle la rhétorique. C'est un modèle dont Paul cherche à se débarrasser, pour autant qu'il le juge incompatible avec le message de Dieu. Cette incompatibilité est bien résumée vers 200, par la célèbre formule de Tertullien dans son traité de la prescription contre les hérétiques, au chapitre 7, « Qu'y a-t-il de commun entre Athènes et Jérusalem ?» Athènes, évidemment, symbolisant la culture grecque. « Athènes et Jérusalem, entre l'académie et l'Église, entre les hérétiques et les chrétiens. Notre doctrine vient du portique de Salomon, qui avait lui-même enseigné qu'il faut chercher Dieu en toute simplicité, en toute simplicité. Tant pis pour ceux qui ont mis au jour un christianisme stoïcien, platonicien, dialecticien. La culture païenne, en tant qu'elle menace, vous voyez la pureté du message chrétien, soit en l'affadissant, soit en le corrompant, doit être rejetée, voire abolie. C'est le message, on l'a vu, de l'auteur du panégyrique de Macaire de Tcourt, avec lequel j'ai commencé. Alors, d'autres chercheurs ont proposé, au contraire, ont développé des modèles fondés sur le principe de la continuité. Les religions changent, mais les attentes des individus en matière de religion, non. Aboutissant à des rémanents syncrétiques. Derrière l'apparente rupture que constitue le christianisme, eh bien, on a recherché des permanences, on a recherché des persistances. C'est par exemple le modèle que privilégie un spécialiste de la religion de l'Égypte comme David Frankfurter, dont j'ai déjà cité tout à l'heure son livre. C'est un type d'approche qu'il avait déjà développé à Princeton en 1998 dans un livre célèbre intitulé « Religion in Roman Egypt, Assimilation and Resistance » et qu'il a développé à nouveau dans un livre plus centré sur le christianisme, livre dont je parlais tout à l'heure, de 2018, « Christianizing Egypt ». Alors, on a aussi développé des modèles s'appuyant sur le principe du dépassement. le christianisme a été considéré comme un perfectionnement de la tradition grecque dont elle est finalement une esquisse imparfaite. Alors qu'il suffise de lire le début de la conclusion par laquelle Basile de Césarée, donc nous sommes au IVe siècle, termine son traité intitulé « Aux jeunes gens sur la manière de tirer profit des lettres helléniques ». Alors c'est un texte très important et central pour notre sujet sur lequel j'aurai l'occasion de revenir assez souvent. Alors, je vous donne le texte, mais avant tout cela, alors il parle des enseignements sur la vertu, sans doute, nous l'apprendrons, nous l'apprendrons dans nos écrits, alors quand il parle de nos écrits, c'est évidemment les Saintes Écritures, d'une façon plus imparfaite. D'une façon plus parfaite. Le lapsus n'est pas révélateur. Mais une sorte d'esquisse, et il emploie en grec le mot très intéressant, skiagrapha, une sorte d'esquisse de la vertu nous sera pour le moment du moins tracée d'après les enseignements profanes. Évidemment, les enseignements profanes, c'est justement là les auteurs païens. Et nous retrouvons, vous voyez, dans ce texte, la métaphore de l'esquisse. La culture païenne est une esquisse que la culture chrétienne perfectionne, que la culture chrétienne approfondit. Or, ce modèle du dépassement implique pour une part celui de la synthèse que le christianisme aurait recherché avec la culture païenne. Ce modèle s'appuie notamment sur l'œuvre abondante des pères cappadociens, Grégoire de Nazianze, Basile de Césarée que je viens de citer, ou son frère Grégoire de Nice, ou bien aussi les grands théologiens alexandrins comme Clément d'Alexandrie, nous sommes à la fin du deuxième, début du IIIe siècle, et Origène, donc aux alentours de 185-254. Ceux-ci ont été en effet tentés par une synthèse entre christianisme et culture grecque traditionnelle, synthèse dénoncée par le païen Porphyre, dont les propos au sujet d'Origène nous sont rapportés par justement Eusèbe de Césarée dans son histoire ecclésiastique. Le texte est intéressant, je vous le cite. Dans sa conduite, il parle d'Origène, il a vécu en chrétien. Mais en ce qui concerne les opinions sur les choses et sur Dieu, il a hellénisé. Et le terme est extrêmement intéressant et j'aurai l'occasion de revenir dessus un peu plus tard. Le mot signifie à la fois se comporter en grec, mais aussi se comporter en païen. J'y reviendrai. Donc, il a hellénisé et a transporté les opinions des Grecs aux fables étrangères, c'est-à-dire l'Évangile. Il vivait en effet toujours avec Platon, il fréquentait les œuvres de Numénius, de Cronus, d'Apollophane, de Longin, de Modératus, de Nicomaque et des hommes instruits dans les doctrines pythagoriciennes, et il puisait aussi dans les livres de Kérémon le stoïque, de Cornutus. Ce fut auprès d'eux qu'il apprit la méthode allégorique des mystères pratiqués par les Grecs. Il l'adapta ensuite aux écritures juives. Donc Origène, vous le voyez, d'après Porphyre, et c'est vrai, essaie d'opérer une synthèse entre philosophie païenne et pensée chrétienne. Alors le modèle de la synthèse a pu aussi être modulé et donner lieu à celui de la récupération ou l'instrumentalisation de la culture païenne par les chrétiens pour faire contrepoids à ce qu'on pourrait appeler une contre-culture, principalement issue des milieux monastiques, jugée trop radicale dans son rejet de la païdéia. J'emploie le terme païdéia à la fois pour désigner la culture, mais aussi ses modes d'acquisition. Cette récupération a pour but d'aider le christianisme à se doter d'outils argumentatifs propres à servir son prosélytisme. Cette dernière motivation est développée avec lucidité, je dirais même peut-être une once de cynisme, on pourrait appeler tout simplement du réalisme, par Socrate le scolastique, dans son Histoire ecclésiastique, texte probablement édité vers 439-440, et sur lequel d'ailleurs j'aurai l'occasion de revenir de façon plus approfondie. Pour l'instant, je vous citerai juste ce passage. Les Écritures inspirées de Dieu enseignent des doctrines admirables et vraiment divines. Elles inculquent à leurs auditeurs une grande piété et une vie droite. Elles procurent à ceux qui s'y appliquent une foi agréable à Dieu. Mais elles n'enseignent pas la logique qui permet de pouvoir réfuter ceux qui veulent combattre la vérité. Les adversaires sont complètement battus lorsque nous utilisons contre eux leurs propres armes. Alors, je pourrais continuer à faire la liste de ces modèles qui ont sous-tendu l'étude de la christianisation du monde antique et de sa culture. Cette diversité d'approches et de systèmes interprétatifs ne tient évidemment pas qu'au regard ou au biais idéologique des historiens modernes qui appréhendent le phénomène avec des sensibilités et des grilles de lecture très diverses, mais elle découle aussi et surtout, et nous l'avons vu avec les quelques exemples que j'ai eu l'occasion de vous citer, elle découle des opinions des auteurs anciens, qu'ils soient acteurs du christianisme montant ou bien acteurs du dernier paganisme, qui, selon leur milieu, selon leur époque, leur formation ou leur conception du christianisme, ont réagi de façon variée, voire contrastée, devant la culture héritée du monde païen ou le développement de cette nouvelle culture chrétienne. Alors, cette diversité est aussi irréconciliable, je dirais, que la réalité du phénomène est protéiforme et susceptible d'angles d'approche variés. Alors, je le dis tout de suite, mon intention n'est pas de faire entendre une énième voix dans ce concert d'analyse et d'ajouter un modèle supplémentaire à ceux déjà nombreux qui ont été développés. Je ne parlerai pas de la christianisation du monde antique, mais de la christianisation de la culture écrite. Et je reviendrai plus tard sur ce que j'entends par culture écrite. Je n'embrasserai pas la totalité de l'Empire romain en tentant une approche, on va dire, macro-historique, mais je me focaliserai sur l'Égypte, qui est une province, cet empire, selon une démarche qui fera souvent place à la micro-histoire, comme y invite la documentation papyrologique, en donnant aux papyrologues les moyens de sonder en profondeur, plutôt, je dirais, plutôt que d'embrasser quelquefois de façon un peu superficielle. Alors, certes, l'Égypte, je l'ai dit, a fait l'objet tout récemment d'une synthèse sur le passage du paganisme au christianisme, avec la monographie de David Frankfurter. Mais dans cet ouvrage de plus de 300 pages, un seul chapitre, chapitre 6, qui est intitulé « Scribality and Syncretism, Tradition of Writing and the Book », seul ce chapitre est consacré au monde de l'écrit, et encore selon une démarche d'anthropologie religieuse qui laisse inexplorer bien des aspects du monde de l'écrit. Mon propos n'est pas de scruter l'écrit seulement en tant que vecteur d'une pensée, qu'elle soit nouvelle, en transformation, en résistance, ou en tant que révélateur par son contenu des pratiques religieuses ou des comportements sociaux. Non, je scruterai aussi et surtout pour lui-même l'écrit en tant que produit culturel, en tant qu'objet, en me demandant comment cet objet a évolué durant la christianisation de l'Empire et comment les conditions de sa production ont été affectées par ce phénomène. Quand je dis affecté, j'emploie ce verbe évidemment au sens étymologique, hein, sans sous-entendre aucunement une idée de dégradation, de diminution ou de déclin. Ce faisant, je poursuis mon travail d'archéologie de l'écrit et de ses conditions de production que j'ai inauguré avec l'étude du multilinguisme les trois années précédentes, après avoir recherché en quoi les changements linguistiques à l'œuvre dans la société de l'Antiquité tardive ont pu conditionner la culture écrite. Eh bien, j'entame avec ce nouveau cycle une réflexion sur la façon dont le développement d'une nouvelle culture sous l'influence du christianisme a pu conditionner l'écrit antique. Alors, il faut s'entendre évidemment sur la notion d'écrit. L'écrit, c'est tout d'abord un contenu, un texte auquel l'écrit donne forme et dont il assure la diffusion auprès d'un lectorat. Mais nous ne pourrons pas faire l'impasse sur une étude synchronique et diachronique de ce que les lecteurs lisaient à cette époque. Quels livres ont continué à être lus? Quels autres ont disparu? Et quels livres nouveaux ont fait leur apparition? Est-ce que ces persistances, est-ce que ces innovations ou ces inflexions en matière de lecture nous disent des options culturelles d'une époque et de la conception qu'elle se faisait de sa culture, de sa païdéia? L'écrit, c'est aussi plus concrètement la façon dont on écrit, la forme que l'on donne à une pensée, les modes d'expression auxquels on recourt pour lui donner vie. Il s'agit là donc de s'interroger sur les évolutions que connurent la langue et le style des écrits, quelle que soit leur fonction, et la façon dont ces modes d'expression ont été transmis par l'enseignement. Plus concrètement encore, l'écrit est l'objet qui résulte du processus de mise par écrit. Le support, la forme, la mise en page du texte, le type d'écriture employé, tous ces paramètres formels concourent conjointement à façonner l'écrit et, loin d'être accessoires ou contingents, sont aussi, nous le verrons, le reflet d'évolution, de transformation, mais aussi parfois, et même souvent, de continuité, qui en disent beaucoup sur la culture de la société dans laquelle ces objets voient le jour. En même temps que mon analyse cherchera à rendre justice à ces différents niveaux, qui sont tous interconnectés et qui, je dirais, constituent l'épaisseur et la richesse foisonnante de l'écrit, eh bien, je me garderai bien de limiter cette analyse à un seul type d'écrit, celui qui retient toujours l'attention des historiens et des historiens de la culture. Je veux parler de l'écrit littéraire, du livre, en tant que véhicule d'une œuvre transmise par le processus de copie d'une génération à l'autre. J'accorderai aussi toute mon attention, et je crois toute l'attention nécessaire, à l'écrit documentaire, c'est-à-dire au texte de la vie de tous les jours, résultant de l'activité quotidienne des individus et revêtant une finalité pratique. Il se trouve que l'Égypte est une des rares contrées de l'Empire romano-byzantin à avoir conservé les originaux de ces deux types d'écrits, à la fois les livres, mais aussi les documents. Ces sables ont livré une quantité de livres et de documents, ce que nous appelons dans notre jargon de papyrologue des papyrus littéraires et des papyrus documentaires. Elles offrent donc des conditions uniques pour observer très précisément comment les uns et les autres ont pu évoluer, aussi bien dans leur contenu que dans leur forme. Alors, les textes littéraires, les livres de l'Antiquité, ont été étudiés par les historiens du christianisme, notamment Harry Gamble, Books and Readers in Early Church, un livre de 1997, mais qui est disponible dans une traduction française due à Pascal Renaud Grosbras, sous le titre « Livres et lecteurs au premier temps du christianisme, usage et production des textes chrétiens antiques », publié à Genève en 2012, qui est un livre extrêmement important sur l'écrit chrétien. Les textes littéraires ont aussi fait l'objet tout récemment d'une synthèse qui est due à Alan Mugridge, Copying Early Christian Text, A Study of Scribal Practice, paru à Tübingen il y a 3 ans. En revanche, les documents, eux, eh bien, ont été infiniment moins pris en considération. Quand ils l'ont été, c'est avant tout pour ce qu'ils nous apprennent sur le christianisme et sur les Écritures, plutôt qu'en tant que produit d'une société en voie de christianisation ou d'une société christianisée. Ce biais s'observe de façon flagrante avec la lettre, qui a été, pour ainsi dire, le seul genre d'écrit antique à avoir fait l'objet d'une analyse culturelle. Pendant longtemps, les historiens du christianisme ne se sont intéressés aux lettres, ne se sont intéressés qu'aux lettres, dans le domaine de la papyrologie, qu'aux lettres, et ne se sont intéressés à ces lettres que pour l'éclairage qu'elles apportaient sur les livres néo-testamentaires. Et je vous rappelle que sur les 27 livres néo-testamentaires qui ont été canonisés, si je puis dire, 21 ont une forme épistolaire. Et donc, ils ne se sont intéressés aux papyrus, aux lettres sur papyrus, que pour ce que ces papyrus pouvaient apporter à la connaissance de ces livres néo-testamentaires au terme d'une analyse comparative, et je dirais à sens unique, analyse qui a été initiée par un livre pionnier, qui est celui d'Adolf Deismann, « Licht von Osten », c'est-à-dire la lumière de l'Est. Le livre, par exemple, que plus tard John Lee White intitulé « The Form and Function of the Body of Greek Letter, a Study of the Letter Body in the Non-Literary Papyri and in Paul the Apostle », eh bien, ce livre est de ce point de vue-là symptomatique et sa structure est assez éloquente. Hein, je vous mets les trois chapitres dont il est constitué. Vous voyez que les formules de transition dans les lettres sur papyrus, le corps des lettres de Paul, la phraséologie et structure, et la comparaison entre le corps des lettres chrétiennes chez Paul et des papyrus. Ce même auteur, John Lee White, fit paraître en 1986 un autre ouvrage sur les lettres sur papyrus, qui semblerait peut-être mieux rendre justice à la richesse de cette documentation, puisqu'il il est intitulé « Light from Ancient Letters », donc on a l'impression d'un ouvrage qui embrasse la totalité des lettres. Mais en fait, lorsqu'on lit son introduction, eh bien, on voit tout de suite quelle était son intention. Le but premier de ce recueil de lettres écrites sur papyrus et découvertes en Égypte est, dit-il, de fournir un corpus comparatif de textes permettant d'évaluer le caractère épistolaire de la tradition du christianisme ancien en matière de lettres telle qu'on la trouve dans le Nouveau Testament et chez les premiers pères de l'Église. Alors, bien d'autres études ont paru depuis et adoptent toujours le même point de vue. Je vous en cite trois tout à fait récentes, une de Clauck, une autre de Bauer et une troisième de Porter and Pitts. Toujours, ce sont des études qui essayent toujours d'utiliser la documentation papyrologique en relation avec le Nouveau Testament. D'autres chercheurs ont soumis les lettres à une analyse non plus seulement formelle ou structurelle, mais je dirais topique, pour tenter d'en extraire des enseignements sur l'émergence du christianisme et, avec lui, d'une nouvelle sensibilité façonnée par l'enseignement des Écritures. Avant tout focalisé sur le problème de l'apparition du christianisme dans la société païenne, ces savants n'ont pas poussé leur enquête au-delà du IVe siècle, qui vit, comme vous le savez, l'officialisation de la nouvelle religion, et nous le verrons, l'inversion numérique du rapport entre païens et chrétiens. Et je vous ai mis à l'écran une bibliographie qui est, je dirais, presque exhaustive concernant les lettres sur papyrus, et on voit qu'en fait, les corpora qui ont été constitués de lettres sur papyrus sont tous des ouvrages qui se focalisent sur le IVe siècle, qui ne vont guère au-delà du IVe siècle. Or, l'écrit épistolaire n'a pas cessé d'être conditionné par le christianisme et d'évoluer de concert avec lui une fois celui-ci institutionnalisé, bien au contraire. Mais il perd évidemment pour beaucoup de son intérêt en tant qu'indice de mutation religieuse pour des savants qui ne s'intéressent qu'au passage du paganisme au christianisme. Encore récemment, Lincoln, Blumel et Thomas Weymouth, dans un ouvrage intitulé Christian Oxyrhynchus Texts, Christian Oxyrhynchus Texts, Documents and Sources, ces auteurs ont rassemblé la documentation qui est surtout épistolaire liée au christianisme en s'arrêtant à la fin du IVe siècle. Après quoi, comme ils l'expliquent, je les cite, « chaque document est recouvert d'un vernis chrétien, que le texte ait ou non quelque chose à voir directement avec le christianisme », ce qui sous-entend, selon ces auteurs, que cela fait perdre au texte postérieur au IVe siècle toute valeur documentaire sur l'histoire du christianisme même. Faut-il cependant se limiter à voir dans les lettres et dans les documents en général de simples pourvoyeurs d'indices de nature historique ? Une approche que je qualifierais d'holistique est aussi nécessaire, une approche qui prenne en compte, certes, l'information historique véhiculée, mais aussi le texte qui les véhicule. Celui-ci entend, et je répète le mot, en tant qu'objet écrit, soumis au mode littéraire et culturel de l'époque qui les produit, devient donc une espèce de microcosme culturel qui n'est pas inintéressant d'analyser pour lui-même et qui montre, dans l'impact que le christianisme a eu sur l'écrit de tous les jours, des évolutions qui ne sont pas anodines. Du reste, si la lettre a été étudié, encore qu'on l'a vu sous un jour assez réducteur, les autres genres documentaires n'ont pas été pris en compte alors qu'ils sont des témoins incomparables de la christianisation de l'écrit antique à tous les niveaux. Je voudrais vous en donner juste un échantillon qui sera une espèce de mise en bouche avant que nous traitions le sujet de façon plus approfondie et qui, j'espère, vous fera saisir tout l'intérêt de ces écrits de la vie de tous les jours, qui n'en disent pas moins, à mon avis, que les textes littéraires, tout en apportant d'ailleurs une dimension supplémentaire. Alors, j'ai choisi pour cette mise en bouche une pétition, un type de document par lequel tout administré avait la possibilité, avait le droit de signaler aux autorités une injustice qu'il aurait subie et de demander réparation. Donc, le terme ne désigne pas ce que nous appelons actuellement une pétition. Alors, voici à l'écran un exemple typique des pétitions, je dirais, pré-chrétiennes. Il se trouve que c'est une pétition d'époque hellénistique. Je vous lis rapidement la traduction. « Au roi Ptolémée, salut, Philista, fille de Lysias, habitant les trois bourgs. Bon. Je suis lésé par Pétécone. Je me baignais au bain du dit village, l'an 1, le 7 Tibi, donc c'est un mois égyptien, quand cet homme, garçon de bain, dans l'étuve des femmes, alors que j'étais sorti pour me savonner, apporta des brocs pleins d'eau chaude et les vida sur moi, me brûlant le ventre et la cuisse gauche jusqu'au genou, au point de mettre ma vie en danger. L'ayant retrouvé, je l'ai livré à Nectosiris, l'archiphylakite du bourg, donc un officier, un policier, on va dire, en présence de Simon l'épistate. Je te prie donc, ô roi, si bon te semble, réfugié en suppliant auprès de toi, de ne pas me voir avec indifférence aussi indignement traité, moi qui vis du travail de mes mains, mais d'ordonner à Diophanès le stratège, donc un haut fonctionnaire, d'écrire à Simon l'épistate et à Nectosiris, le Philakite, qu'il amène devant lui Pétécone, afin que Diophanès examine l'affaire. Ainsi, après avoir cherché refuge auprès de toi, ô roi, commun bienfaiteur de tous, j'obtiendrai justice. Sois heureux. Voilà, ça c'est une pétition typique de cette époque. Voilà maintenant une pétition du VIe siècle, plus exactement une pétition écrite en 567. Alors, elle est très longue, infiniment plus longue que celle que je viens de vous montrer, et je ne vous en donne que l'introduction et la conclusion qui me semblent très caractéristiques pour ce que j'essaye de vous montrer. Alors, à Flavius, Triados, Marianos, Michael, Gabriel, Constantin, Théodore, Marturios, Julien, Athanase, il s'agit d'une seule personne qui a une multitude de noms. Le gloriosissime Stratélade, général, ex-consul, excellentissime patrice du préfet Justin, duc et augustal de la province de Thébaïde, c'est tout simplement le gouverneur de la Thébaïde auquel ce pétitionnaire s'adresse. pour la deuxième année, requête et supplice de vos très pitoyables serviteurs, les misérables petits propriétaires et habitants de la très du très misérable village d'Aphrodité qui dépend de la Domus Divina, c'est-à-dire des propriétés impériales, et de votre excellente autorité. Le sens et la pratique de la justice illuminent toujours tout entier les audiences de votre très éminente, très bonne et excellente autorité, que nous attendons depuis longtemps comme les habitants de l'Hadès espéraient jadis la venue du Christ Dieu toujours vivant. Car après Dieu même, notre maître, notre sauveur, notre secours, notre véritable et bienveillant bienfaiteur, c'est en votre Altesse, partout très fameuse et acclamée, que nous plaçons tous nos espoirs de salut, afin que, dans toutes les situations d'urgence, elle vienne à notre secours, qu'elle nous mette à l'abri des crocs des injustes et qu'elle nous sauve des indicibles dommages que, depuis le début, nous subissons et qu'un rouleau de papyrus ne suffit pas à contenir. Dommages perpétrés par Ménas, le clarissime scrinière, donc un secrétaire, et pagarque d'Antaiopolis. Humblement, nous rappelons à votre conscience. Alors, ce sont ces termes, j'ai mis des majuscules, ce sont des termes abstraits qui sont utilisés à l'époque byzantine pour désigner, comme désignation de personne. C'est extrêmement fréquent de voir ces abstraits qui deviennent des. Quand on s'adresse à une personne importante, on utilise ces termes. Bon. Nous rappelons à votre conscience, toute sage, célébrissime et qui aime le bien, mais elle atteint toute raison et sagesse, mieux que ne le permet un discours détaillé, au point que, de tout comprendre jusqu'à en avoir une suprême connaissance et à opérer un renversement de situation. C'est pourquoi, sans hésiter, nous en sommes venus en nous roulant à vos pieds immaculés, vous informant de la teneur de notre affaire. Nous informons votre très fameuse autorité que depuis le commencement de la 15e indiction, qui vient de s'achever, depuis que, alors il s'agit de Ménas, celui contre lequel le pétitionnaire écrit, depuis que Ménas a pris en charge la pagarchie d'Antaiopolis, donc il s'agit d'une fonction fiscale extrêmement importante, il jouit des profits des arours de notre confrère. Les arours, c'est une unité de mesure, donc il jouit en fait des terrains de notre confrère, le misérable serviteur de votre glorieuse philanthropie, Dioscore, un homme pourtant très pauvre, qui a de jeunes enfants qui ne savent même guère distinguer leur main gauche de leur droite et qui doit faire face à maintes dépenses pour leur entretien. Alors là, je saute plusieurs colonnes de la pétition pour en arriver à la fin. C'est pourquoi nous supplions à genoux votre très acclamée Altesse, nous qui sommes venus la voir comme si nous allions voir Dieu, en l'adjurant au nom de votre éminent salut, du succès de l'épanouissement de vos très heureux et très célèbres enfants, si elle le juge bon, d'ordonner au dit pagarque qu'il cesse de nous détruire comme un lion enragé. Ensuite, que les bergers, ces chefs de brigands, ces criminels, pire fléau, il a effectivement parlé des bergers plus haut en disant qu'ils avaient détruit leurs champs, etc. Donc c'est pire fléau que barbare, soit éliminé jusqu'à la racine afin que nous puissions vivre tranquillement, pourvoir, comme par le passé, aux impôts, les lever et les verser sans encombre afin qu'obtenant de vous ce suprême bienfait, nous répandions éternellement de continuelles prières et intercessions pour votre permanence et votre salut, ô toujours très glorieux Stratélate, excellentissime consul, très fameux Patrice, très distingué duc, très intègre Augusto, seigneur et à tout jamais de l'éparchie. Il utilise un pluriel, mais en fait, c'est un pluriel d'acclamation, mais il désigne bien une seule personne, c'est-à-dire le gouverneur. Alors, vous voyez ce texte, vous voyez en fait l'abîme qui sépare ces deux pétitions. Si l'on se place du seul point de vue de l'empreinte que le christianisme a laissée sur la seconde. Cette empreinte, comme vous l'avez senti, comme vous l'avez vu, elle est omniprésente et elle se laisse appréhender à tous les niveaux du texte. Alors, tout d'abord, sur le plan du contenu, qui est bien évidemment, puisque ce texte nous parle d'un univers qui est désormais, nous sommes en 567, un univers qui est complètement marqué par les institutions chrétiennes. Vous avez vu, vous avez peut-être souri quand j'ai lu le nom de ce gouverneur, ce nom interminable du gouverneur. Eh bien, le seul nom du gouverneur à qui cette pétition est adressée témoigne de la profonde, justement, christianisation de la société, son nom d'usage, qui est Athanase, qui est le dernier dans cette suite onomastique, qui est le dernier, et celui de ses ancêtres qu'il précède, Julien, Marturios, alors il faut prendre Julien, peut-être probablement son père, hein, bon. Ces noms sont introduits par ce qui équivaudrait aujourd'hui à nos prénoms, et qui affiche très visiblement la dévotion qu'avait ce personnage pour la Trinité, Triados, vient de Trias, Triados en grec, qui veut dire la Trinité, pour Marie, Marianos, et pour les archanges, Michael et Gabriel. Enfin, Michel et Gabriel. Ensuite, ce texte est pétri d'une rhétorique profondément chrétienne, avec l'utilisation notamment de l'exemplum du Christ descendant aux enfers pour faire, je dirais, du gouverneur une figure quasi christique qui vient sauver ses administrés. Et en disant cela, évidemment, le pétitionnaire espère que le gouverneur viendra le sauver lui aussi. Alors, moins visiblement, le texte est truffé d'allusions et d'échos bibliques. Alors, l'expression, par exemple, nous mettre à l'abri du croc des injustes, le texte grec, c'est ex odonton adikon. Eh bien, c'est une citation ou un écho à Job 29. Je briserai les crocs des injustes, d'entre leurs dents, j'arracherai leur proie. Et là, vous retrouvez les deux mots, hein, adikon et odonton. Plus loin, l'expression qui a de jeunes enfants qui ne savent même guère distinguer leur main gauche de leur main droite, eh bien, c'est une expression qui renvoie à Jonas 4:11. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne savent distinguer leur main droite de leur main gauche et des bêtes sans nombre. Il n'y a pas, jusqu'au lexique, qui ne porte la marque des Écritures dans cette pétition. Par exemple, le pétitionnaire emploie le terme « russastai », qui signifie « sauver », et qui est un terme qui n'est utilisé dans le Nouveau Testament que pour le Christ et pour Dieu, ce qui crée de façon, je dirais, presque subliminale, par le vocabulaire, une assimilation du gouverneur avec le Christ. Mais on observe aussi au niveau du vocabulaire des phénomènes plus complexes et qui sont, me semble-t-il, hautement significatifs de la culture de l'époque. Le pétitionnaire dit de Ménas, le pagarque, contre lequel il envoie cette pétition, qu'il accuse de tous les maux, il dit de lui qu'il est destructeur comme un lion enragé. Et le terme qu'il emploie en grec, qui est un mot qui n'existe nulle part ailleurs, donc qui est peut-être de l'invention du pétitionnaire, à moins qu'il ait lu quelque part dans un texte dont nous n'avons plus la trace, ce mot est tumoleontophtoros, qui veut dire littéralement qui détruit comme quelqu'un qui a la rage d'un lion. Eh bien, ce mot, en fait, renvoie à un terme homérique, tumoleon, qui veut dire au cœur de lion. On a là donc un clin d'œil à Homère. Mais ce qui est plus subtil, c'est que chez Homère, tumoleon, au cœur de lion, qui est employé surtout pour Achille, a toujours un sens positif. Alors que dans le cas présent, évidemment, le mot a une connotation extrêmement négative. C'est que, en fait, la comparaison avec le lion renvoie aussi à un texte, cette fois-ci chrétien, la première épître de Pierre, et je vous donne à l'écran la référence, « Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. » Autrement dit, la référence homérique est détournée par une allusion scripturaire, ce qui traduit, me semble-t-il, très bien le double univers référentiel et donc culturel dans lequel s'inscrivait la production écrite du VIe siècle, dont fait partie cette pétition. Homère, en même temps que les Écritures, dirais-je, ou Homère récupéré et transcendé par les Écritures, eh bien, c'est ce que nous essaierons de voir. Enfin, pour en finir avec ce texte, eh bien, le christianisme s'insinue jusque dans la façon d'écrire. Et je vous ai dit que c'était une des strates importantes de la notion d'écrit, la strate la plus formelle, la plus matérielle. Donc le christianisme se lit dans ce texte aussi à ce niveau-là, dans la mise en page du texte. En effet, le texte commence par de curieux signes que vous avez tout en haut, qui se situent, parce que le papyrus est en plusieurs colonnes, là vous n'avez que la première colonne, mais donc ce petit signe devait se trouver à peu près à mi-chemin de la ligne, tout en hauteur. Voyez une croix et trois lettres grecques, chi, mu, gamma. Eh bien, ces trois lettres constituent une formule chrétienne acronymique ou isopséphique. Alors, je m'explique. La séquence a pu être interprétée soit comme un acronyme de Christos Marias Gena, ou d'autres formules similaires, mais qui commencent toutes par un chi, un mu et un gamma, et qui signifie Christ engendré par Marie. Donc, un simple acronyme. Ou bien, deuxième façon d'interpréter ces trois lettres, par ce qu'on appelle une isopséphie, isopséphie de Theos Boethos, qui veut dire en grec Dieu sauveur. Alors, Dieu sauveur. Une isopséphie, mot à mot, isos, psephos, ça veut dire qu'il y a le même calcul. Ça signifie qu'il y a la même valeur numérale. En grec, comme vous le savez, chaque lettre était susceptible d'avoir soit une valeur alphabétique, alpha égale alpha, soit une valeur numérale, alpha égale 1, bêta égale 2, gamma égale 3, etc. Et à partir de iota, on a les dizaines, et à partir d'euro, on a les centaines. Et donc, chaque mot pouvait avoir, si on calcule, si on additionne la valeur numérique de chaque lettre, pouvait avoir donc aboutissait à un nombre. Eh bien, en l'occurrence, 643, chi, mu, gamma, eh bien, c'est la valeur numérale de Theos Boethos, Dieu sauveur. Et vous voyez, en fait, l'isopséphie a été utilisée par les Grecs, soit pour exprimer de façon abrégée des formules ou des concepts chrétiens, par exemple ici, où on a 643 pour dire Theos Boethos, ou bien pour établir des équivalences entre des mots et donc des concepts qui ont la même valeur numérique. On s'est rendu compte, par exemple, que Agathos, si vous additionnez la valeur numérique de chaque lettre, ça donne 284, ce qui est le même calcul, la même valeur numérique que Theos, Dieu. Et donc, Dieu est bon. Donc l'isopséphie a donné lieu à toutes sortes d'interprétations, etc. Mais nous avons juste une forme d'isopséphie, c'est-à-dire une séquence numérique qui équivaut à une formule beaucoup plus longue, en l'occurrence Theos Boethos. Alors, ces quelques signes dont nous verrons qu'ils sont très employés dans les documents, mais pas simplement d'ailleurs, pas simplement dans les documents, mais aussi sur les objets de la vie de tous les jours, eh bien, placer, pour ainsi dire, le document sous la protection divine. Mais cette marque graphique du christianisme ne se limite pas à juste ces quelques lettres liminaires. On la voit aussi manifestée tout au long du texte par la dissémination de croix de formes diverses. Par exemple, au tout début du texte, vous avez une croix un peu bouclée, et au milieu de la première colonne, vous avez une autre croix, cette fois-ci toute simple, non bouclée, et il se trouve qu'elle est employée à un moment où on change de partie du texte. Donc, les croix, en fait, permettent de visualiser la structure du texte dans un type d'écriture où tous les mots sont continus et où le concept de paragraphe n'existe pas. Et donc, vous voyez que le christianisme, si je puis dire, se fait ponctuation. C'est dire l'incroyable prégnance qu'il fait peser sur l'écrit. Alors, tout cela ne mérite-t-il pas qu'on s'y intéresse ? Or, les investigations qui ont été menées dans le domaine de la culture écrite ont ignoré ce pan de la culture écrite en se limitant à la littérature et à la culture érudite qu'elle implique le plus souvent et en ignorant l'écrit de tous les jours qui témoigne pourtant d'une culture plus large pratiquée par l'ensemble de la population alphabétisée. Alors, l'archéologie de l'écrit que je vous proposerai, pour être globale, redonnera au document la place qu'il doit avoir et donc elle réinvestira le champ de l'écrit quotidien. C'est la première fois que le phénomène de la christianisation sera donc étudié au travers des papyrus aussi bien littéraires que documentaires, auxquels d'ailleurs s'ajouteront, vous le verrez, des inscriptions, notamment sur les objets de la vie de tous les jours, qui complètent à leur façon le corpus de l'écrit sur support amovible. J'emploie cette expression de support amovible puisque c'est une des définitions de la papyrologie. La papyrologie, c'est la discipline qui s'intéresse aux documents écrits à l'encre sur des supports amovibles, ce qui les oppose d'une certaine façon à l'épigraphie. Alors j'essaierai de vous montrer, le moment venu, comment l'écrit documentaire, dans toutes ses formes et dans toutes ses strates, a fortement évolué entre le IVe siècle, le siècle où le christianisme est devenu religion d'État et commence à se faire sentir notamment dans les lettres privées, et le VIIe siècle, où la christianisation de l'écrit documentaire se parachève, avec l'inclusion de très longues invocations divines en début de tout contrat qui perpétue une décision impériale qui avait été prise à la fin du VIe siècle. Donc comment cette évolution s'entrecroise avec celle que l'on observe dans l'écrit littéraire ? Comment, enfin, les deux témoignent d'une dialectique entre christianisme et culture traditionnelle, comme nous l'avons entreaperçu avec le petit exemple de ce mot curieux, Thumo Leonto Phtoros. Alors, si l'Égypte, je l'ai dit, permet l'étude conjointe de ces deux types de sources, elle rend aussi possible une contextualisation souvent très fine des dites sources. Autrement dit, grâce aux papyrus qu'elle a livrés en quantité, elle rend possible l'analyse assez précise des conditions de production et d'utilisation de l'écrit en général, en redonnant vie aux anciens, en redonnant vie aux acteurs de la culture écrite, que sont les élèves, que sont les lecteurs, que sont les copistes, que sont les littérateurs, que sont les notaires. Nous essaierons donc de les observer à l'action dans les lieux où ils exercent leur activité, c'est-à-dire les écoles, les bibliothèques, les scriptoria, là où on copiait les textes littéraires, et les études notariales. Ce n'est donc pas l'écrit en général qui nous intéressera, mais les écrits dans ce qu'ils ont de plus spécifique et changeant, je dirais, selon le profil des personnes qui leur donnent corps et selon les espaces dans lesquels ils sont réalisés. C'est donc à une sociologie de l'écrit que je vous invite et qui impliquera une mise en contexte des textes en fonction de celui qui les a produits, de leur destinataire et de leur fonction sociale. Et nous essaierons, je dirais, comme si on essayait de reconstituer un puzzle, nous essaierons de raccorder les diverses phases de la paideia, l'apprentissage, la production, la lecture, la transmission, qui sont souvent appréhendés séparément du fait même de la nature de nos sources, mais que, précisément, les papyrus, en redessinant le profil des personnes qui les ont produits, permettent d'articuler les unes aux autres. Alors, ce travail se fera à partir de papyrus déjà édités. Vous savez que le corpus papyrologique, pour toute la période qui va du 4e avant au 8e après, au début du 9e après, se monte actuellement à 70 000 pièces publiées, mais je vous réserve aussi l'exclusivité de papyrus inédits de diverses collections, certaines à Paris, d'autres ailleurs, qui viendront illustrer et nourrir mon propos. Et je dirais que c'est un des avantages de la papyrologie, c'est qu'elle est inépuisable et qu'elle apporte toujours de nouveaux textes et de nouvelles surprises. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faudra néanmoins que je fasse quelques mises au point terminologiques sur des notions extrêmement importantes, que sont notamment la christianisation et le terme de culture classique que j'ai employé dans mon titre, mais je réserve ça pour le prochain cours. Je vous remercie. Thank you.